There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
This episode of Canada Land is brought to you by Douglas, a mattress that is trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. It's a great mattress at a very reasonable price point. Comes with a 20-year warranty. And a great deal for our listeners. Douglas is giving you a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca/CanadaLand to claim this offer. That is douglas.ca/CanadaLand. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. It's never an easy call with so many problems in the world to know where to direct the money that you donate when you want to help out in this world. But what I can tell you is that when you donate to CAMH, you're saving lives. We know about the opioid crisis. We know about the mental health crisis. They are doing the work. Help change mental health care forever. Your support will help CAMH build a future where no one is left behind. Donate at CAMH.ca/CanadaLand to help us treat addiction and build hope.
Bonjour, ici Émilie Nicolas. Cette semaine, je suis accompagnée de Mei Chu, qui est avocate et membre de l'Association des Chinois progressistes de Montréal. Bonjour, Mei.
Bonjour, Émilie.
J'avais envie de parler avec toi, Mei, cette semaine, parce que personnellement, je suis assez inquiète de l'actualité des derniers mois. Comme chroniqueuse, comme personne qui fait du commentaire politique dans différentes émissions, on me demande souvent de parler de tout ce qui tourne autour des allégations d'ingérence, d'interférence chinoise dans les élections canadiennes et toute l'actualité politique qui tourne autour de ça. Puis j'entends très peu de personnes d'origine chinoise au Canada s'exprimer sur cette question-là. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français.
Deux pays, deux cultures, et ce très désagréable sentiment d'être pris entre deux feux. La communauté sino-canadienne vit en effet une période bien difficile entre intimidation de la part de Pékin et montée de la stigmatisation au Canada. Pour cette communauté, chaque épisode de tension diplomatique entre les deux pays est une nouvelle source d'angoisse.
Monsieur Bordua, bonsoir. Je le disais, il y a déjà une enquête au sujet de ces postes ou ces présumés postes de police chinois dans l'ouest du pays. Voici qu'il y a une enquête dans l'est. D'abord, est-ce que ça vous surprend, vous?
Pas du tout. On sait très bien que l'ingérence chinoise a été mentionnée et on parle en très, très difficile.
Est-ce que le gouvernement canadien, la police, est-ce qu'on doit en faire plus devant ces tentacules chinoises-là que l'on voit, bon, soit effort tentative d'ingérence dans le processus électoral, soit intimidation auprès de ressortissants chinois? Vous le dites pas comme ça, mais c'est un peu comme si vous disiez il faut un peu sortir de la naïveté, là, puis être un peu plus agressif vis-à-vis la Chine.
Définitivement, vous vous rappelez des deux scientifiques.
Dans la pandémie, on a vu comment l'actualité a eu un impact important sur la montée de la haine anti-asiatique lorsque les gens se sont mis à faire des liens avec la Chine et, entre guillemets, les Chinois et le virus de la COVID-19. Il y a eu une montée des agressions un peu partout au Canada et aussi à Montréal. Et c'est cette montée-là qui a d'abord été juste vu sur le terrain, a été confirmé dans les statistiques sur les criminels dans les années qui ont suivi. Puis je me demande, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le cycle de nouvelles qu'on a eu? Est-ce que c'est en train d'empirer? C'est quoi l'ambiance? Puis, mais avec tout, disons, l'activisme, l'organisation communautaire que tu fais auprès de la communauté à Montréal depuis des années, je me disais que tu étais la personne peut-être la mieux placée pour nous éclairer par rapport à ça. D'abord, comment ça va, mais, et qu'est-ce que tu sens sur le terrain?
Merci beaucoup, beaucoup pour nous donner la chance de nous exprimer, surtout dans le média francophone. Parce que en fait, les médias francophones les plus dominants ont beaucoup, beaucoup circulé des amalgames, des sautes aux conclusions erronées. Les enquêtes des journalistes étaient très, très faibles. Au niveau de comment ça va sur le terrain, ben, les deux seuls centres communautaires chinois au Québec, leur continuation, leur existence, leur capacité de continuer à fournir des services essentiels à la communauté chinoise au Québec est très fragilisée par une enquête qui continue sans aucune spécificité, sans aucune preuve. Et quand vous avez dit au début aussi qu'on a très peu entendu de la communauté, mais le problème est que tout ce qui circule dans le public avec les accusations d'ingérence étrangère et surtout plus récemment cette année avec les présumés postes de police chinois qui opèrent au Canada, ça a vraiment produit un effet de gel dans la communauté. Et c'est pour ça que nous disons que tout ce qui se passe au niveau médiatique, au niveau des gestes par les autorités policières, par le gouvernement, par différents partis politiques, vraiment ça a un effet de nuire à notre liberté d'expression, association, pensée, opinion politique. La communauté chinoise est très, très diverse. On est composé de diverses générations avec diverses positions politiques dans la communauté. On a droite, gauche, les libéraux, etc., etc. Alors, bien sûr, dans cette diversité d'opinions publiques et politiques, il y a des gens qui reconnaissent bien que le gouvernement de Chine a fait, par exemple, tout le progrès dans l'élimination de la pauvreté absolue dans la Chine. Alors, il y a des choses dont nous sommes fiers, mais on a peur que si on parle des choses positives, on va être nécessairement comme attaqué comme agent du gouvernement chinois.
Oui, en fait, tu as dit énormément de choses et je pense que ça va valoir la peine pour les auditeurs de les prendre une par une. D'abord, tu as dit qu'il y a deux principaux organismes qui offrent des services à la communauté chinoise de Montréal, qui, à cause de ce qui se passe dans l'actualité des derniers mois, ont dû cesser leur activité. Et là, pour les gens qui n'ont pas suivi, on parle du Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, donc qui est à Brossard, et le Service pour la famille chinoise du Grand Montréal, parce qu'il y a eu une enquête donc de la GRC qui cherchait à savoir si ces deux organismes-là n'étaient pas en train d'abriter ce qu'on a appelé des postes de police clandestins de l'État chinois. Alors même que l'enquête a encore eu lieu, déjà il y a eu donc des coupures, si je comprends bien, des fonds gouvernementaux qui leur permettaient d'opérer. Et donc les organismes en ce moment sont en train de demander essentiellement la présomption d'innocence parce que là, le résultat, c'est qu'il y a eu des enquêtes journalistiques et déjà les organismes ne peuvent plus offrir des services à la communauté sans qu'il y ait eu de vérification ou disons de conclusion légale qui ait déjà été tirée. C'est bien ça dont il est question là, lorsque tu parles des deux organismes?
Oui, le problème est que devant des manchettes qui nomment ces deux centres communautaires chinois comme les postes de police du gouvernement chinois, bien sûr, il y a deux effets. Premièrement, normalement, les gens qui ont l'habitude de demander de l'aide de ces organismes communautaires ont maintenant peur. Ils pensent que oh, quelqu'un va me dénoncer auprès du gouvernement chinois. Alors que c'est pas vrai du tout. Puis l'autre effet est qu'en même temps, le gouvernement du Québec, basé sur ces informations qui sont pas du tout confirmées de loin, a déjà coupé des subventions. Et imaginez ça maintenant, au quartier chinois, il n'y a plus de cours de français pour les immigrants. Et deuxièmement, il n'y a plus de formation à l'employabilité pour les immigrants chinois basés au quartier chinois. Alors, c'est ridicule le mal que nous sommes en train de souffrir. Le GRC, quand ils ont déclaré aux médias que ces deux organisations sont sous enquête, à peu près deux semaines après cette annonce, tous les membres de CEIA, de ces organismes communautaires, ont passé des entrevues.
Des entrevues avec la GRC.
Depuis le mi-mars, depuis les entrevues par le GRC, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on apprend de ces accusations sont dans les médias. On ne sait pas sans quoi les actes que ces organismes communautaires ont posés, qui sont illégaux. On ne sait pas sans quoi la preuve. On ne sait pas qui a dit quoi. Vers la fin d'avril, le ministre Mendicino a annoncé que, oh, bonne nouvelle, le GRC a réussi à fermer tous les postes de police au Canada. Et là, on était étonnés parce que ces organisations communautaires travaillent encore avec beaucoup de prestations réduites à cause des coupures de subventions, mais ils opèrent encore. Donc, au niveau de fermeture des activités illégales auprès de ces organismes communautaires, vraiment, on ne comprend pas de quoi ils parlent parce qu'on fonctionne comme normal. Et les seules activités que la police a réussi à mettre fin sont les cours de français et les cours de formation en employabilité.
Mais donc, ces organismes-là, juste pour que les gens comprennent, c'est des organismes communautaires, les services qui sont offerts, c'est surtout des services aux personnes âgées, soutien victimes en violence conjugale, comme je disais, des cours de français pour les personnes qui sont en situation de pauvreté. Et dans le fond, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi avec les gens dans la communauté depuis que les nouvelles sont sorties en mars sur la question des postes de police. Et donc, depuis ce temps-là, tout le monde est dans l'ombre. Donc, ça doit créer un climat de peur, non, et d'incertitude.
Oui, bien sûr. Et pas seulement ça. Il y a des gens, des intervenants sociaux, puis on s'entend que dans le milieu communautaire, la majorité des travaux sont faits par les femmes. Quand, mm-hmm. si jamais vous allez à une rencontre de bailleurs de fonds avec les organismes communautaires, vous allez voir comme la grande majorité sont les femmes. Alors, les femmes qui travaillent dans ces organismes communautaires, il y a déjà des femmes qui ont perdu leurs emplois à cause de coupures de subventions. Alors, on souffre des pertes des deux côtés, la perte des emplois pour les femmes racisées. Et déjà, Emily, vous avez travaillé sur les dossiers de discrimination systémique, puis on connaît les chiffres d'employabilité pour les femmes racisées. Donc, ce sont les femmes qui sont déjà vulnérables, qui ont perdu leurs emplois. Puis, de l'autre côté, les immigrants qui ont vraiment besoin des services du beurre et pain, disons, accès à la francisation, puis formation à l'emploi, ça aussi c'était coupé par la communauté.
Alors, ça, c'est le premier élément que c'est important, je pense, d'aller plus en détail. Le deuxième élément que tu as nommé d'entrée de jeu, c'est le fait que maintenant, il y a certaines personnes dans la communauté qui vont avoir peur d'aller vers certains organismes ou vers certains services en se disant, ben, puisque justement l'association a été faite avec le fait que ce serait des postes de police chinois, ben les gens se disent, est-ce que le gouvernement de la Chine n'est pas là pour m'espionner? Est-ce que les gens ont aussi peur de... En fait, j'ai l'impression que les gens sont pris entre l'arbre et l'écosse. D'une part, une inquiétude par rapport au gouvernement chinois, vu tout ce qu'on entend dans les médias, et d'autre part, une inquiétude par rapport au gouvernement canadien, justement à cause de tout ce qu'on entend dans les médias. Est-ce que c'est une façon juste de caractériser la situation?
Oui, 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 c'est exactement ça. En anglais, il y a une expression, on est coincé entre a rock and a hard place. Donc, on est coincé dans un coin où on est perdant, peu importe où nous sommes orientés. Je veux juste dire, parce que il y a aussi au gouvernement canadien le registre des agents d'influence étrangers qui est très vague et qui pourrait capter tout le monde qui fait des affaires avec les sociétés chinoises ou ce qu'on appelle les principaux des pays étrangers.
C'est pas un projet de loi comme tel pour l'instant, mais le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a lancé une consultation pour regarder est-ce qu'il pourrait pas proposer, comme tu dis, un registre de transparence pour l'influence étrangère, essentiellement. Et il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont créées par ce registre-là. Essentiellement, les gens qui le demandent à ce que les personnes qui aient des liens avec certains gouvernements jugés, disons, pas des alliés du Canada, dont la Chine, mais plus des autres pays aussi, que ces gens-là soient essentiellement enregistrés sur une liste pour qu'ils soient identifiés. Ce que ça veut dire, c'est qu'essentiellement, concrètement, toute personne qui a des liens avec un organisme qui est basé en Chine serait nécessairement donc une personne qui a une influence étrangère. Donc, ça suscite beaucoup, beaucoup de questionnements. Il y a une consultation qui est en cours là-dessus. J'entendais récemment un sénateur d'origine chinoise basé à Vancouver, le sénateur Yuen Pon Wu, qui fait notamment une série de positions publiques là-dessus pour essayer de, essentiellement, d'avertir ou de mettre en garde les Canadiens contre les conséquences possibles d'un registre comme ça, qui existe déjà notamment dans des pays comme aux États-Unis, en Australie et ailleurs dans le monde, dans un contexte, ce sont des lois qui datent essentiellement de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont beaucoup été utilisées dans le contexte de la guerre froide, franchement pour le meilleur et pour le pire, on va le dire. Donc, c'est de ça dont il est question. Est-ce que ça fait beaucoup parler dans la communauté? Parce que franchement, on entend très peu, à part sénateur Wang Penghu en anglais, j'entends très peu de personnes d'origine chinoise commenter sur cette idée-là qui est en train de circuler en public dans les médias. Donc, en privé, est-ce que les gens en parlent beaucoup, mais...
Oui, on est tous inquiètes. En fait, cette entrevue, comme aujourd'hui, au niveau de temporalité, c'est très, très juste, parce que le 1er juillet, comme la semaine prochaine, c'est la commémoration du centenaire de l'acte d'exclusion du Canada. Donc, le 1er juillet en 1923, le gouvernement du Canada a passé un acte qui exclut tous les immigrants chinois pour venir au Canada et... Pour les gens qui sont déjà ici, tout le monde était obligé de s'inscrire dans un registre. Il faut qu'ils promènent avec des certificats pour prouver qu'ils ont le droit de rester au Canada. Alors, ce registre des agents d'influence étrangers nous inquiète beaucoup, beaucoup. Et les descendeurs des victimes de la taxe d'entrée et l'acte d'exclusion, il y a beaucoup qui militent contre ce registre. Il y a aussi une pétition en ligne qui est en circulation. Je ne me rappelle pas le nombre de signatures que cette pétition a ramassées. Mais Emily, tout ce qui se passe concernant les Chinois, le lien avec le pays de Chine, la République populaire, tout ce qui se passe maintenant, comme depuis le COVID, est vraiment en lien avec ce qui se passait dans nos histoires. Si nous osons de critiquer un projet de loi qui a pour son objectif, entre parenthèses, protéger les intérêts du Canada, est-ce que nous ne serons pas à appeler sur le coup les gens qui ne sont pas loyaux au Canada? C'est exactement ce qui se passe avec toutes les citoyennes canadiennes, comme depuis des guerres mondiales. Alors, les gens qui ont des connexions avec leur pays d'origine, il faut rappeler des Japonais canadiennes pendant la Deuxième Guerre mondiale qui, parce qu'ils sont d'origine japonaise, c'était pris pour acquis qu'ils doivent absolument avoir un conflit de loyauté et donc on ne peut pas faire confiance à eux. Alors, pour ce registre, oui, il y a beaucoup de monde dans nos communautés qui sont contre parce que, comme j'ai dit, c'est trop vague. Et on sait aussi que les premiers noms sur ce registre, ça va être nous. C'est un registre qui propose des amendements aux codes criminels avec des pénalités d'emprisonnement, même des grosses pénalités si on n'a pas enregistré comme un agent d'influence étranger parce que, par exemple, si la Chine fait un appel pour la collaboration de lutter contre la crise climatique, comme il a déjà fait dans les années passées, puis comme citoyenne, on commence à agir sur ça, est-ce que nous sommes des agents d'influence étranger? Donc, le bien qu'il pourrait faire, je pense que est vraiment disproportionnel au niveau de malheur qui peut causer au Canada. Ça va diviser les Canadiennes et Canadiennes. Ça va avoir, encore une fois, un effet de gel Et puisque c'est très vague, ça crée la peur dans des communautés, pas juste chinoises, mais qu'est-ce qu'on définit comme les gouvernements malveillants? Si on prend le plus grand ami de l'État canadien, les États-Unis, vraiment a envahi plusieurs pays dans l'histoire, la Libye, Afghanistan, etc., etc. Mais si on promouvoit les intérêts des États-Unis, on est correct. Mais si on promouvoit, par exemple, je ne sais pas, l'autorité palestinienne ou Cuba, est-ce que nous serons être accusés des agents d'influence étrangers? On pose beaucoup, beaucoup de questions sur cette proposition d'un registre. Et je crois que notre préoccupation sont très fondées.
Je comprends beaucoup de choses dans ce que tu dis, mais un premier élément, je pense, c'est vraiment l'aspect de trauma intergénérationnel. Je pense que c'est important de nommer parce que souvent, c'est occulté, c'est mal compris. Soit les gens connaissent pas l'histoire de la taxe d'entrée, de la loi sur l'exclusion des personnes d'origine chinoise au 20e siècle, le trauma que ça crée dans la communauté, ou soit, même quand les gens connaissent cette loi-là, comprennent pas nécessairement que cette loi-là inclut un registre pour les personnes d'origine chinoise au Canada, que tout le monde avait le devoir de s'enregistrer. Donc, nécessairement, ça vient chercher des fantômes. Il y a une partie de la communauté chinoise ici qui est là depuis une génération ou deux, mais il y en a qui sont là depuis 4, 5, 6 générations. Et c'est sûr que pour les gens qui sont là encore plus depuis tout ce temps-là, j'entends aussi personnellement des inquiétudes, pas dans les médias, hein, sur le terrain, j'entends ces inquiétudes-là qui sont mises de l'avant. Après, je pense que tu mets aussi de l'avant des arguments qui touchent bien plus large que la communauté chinoise sur les pièges sur lesquels un tel registre d'influence étrangère pourrait tomber. Mais je pense que c'est important de nommer ça. Puis une autre chose que tu as dit, c'est la question du gel. Donc, les gens se freeze essentiellement là, sur place. Dans les enquêtes journalistiques qui ont déclenché, donc fin février, début mars, toute cette saga-là dans l'actualité canadienne, les enquêtes du Globe and Mail, les enquêtes du Globe, il y a eu des personnes, des politiciens d'origine chinoise qui ont été accusés d'avoir des liens avec les consulats, d'avoir des liens avec la Chine. Certaines de ces personnes-là, je pense à Han Dong notamment, sont en train de préparer des poursuites en diffamation contre les médias en question. Qu'est-ce que ça donne? Parce que toi-même, tu as été donc impliqué politiquement. Comment est-ce qu'on peut encore, en 2023, être une personne d'origine chinoise au Canada, s'impliquer dans un parti politique et ne pas sentir le soupçon de peut-être être en train d'être un agent chinois en train d'interférer dans le processus canadien? La question est lourde, là, mais c'est la question que je me pose.
Oui, ça, c'est notre question aussi. par exemple, à Vancouver, ils ont réussi à faire élu le premier maire chinois.
Donc là, on parle de Ken Sim, le maire de Vancouver, qui a été élu donc l'an dernier, en 2022. Là, c'est la première personne d'origine chinoise à avoir la mairie de Vancouver. Donc effectivement, là, dans les derniers mois, il y a eu des reportages qui ont demandé si, oui ou non, il n'y avait pas eu une aide de la Chine dans son élection, si son élection n'avait pas été volée essentiellement. C'est de ce dont on parle.
Oui, la communauté à travers le Canada a fêté. Puis maintenant, les médias questionnent, est-ce que lui, il avait vraiment la capacité de gagner une élection? Ou est-ce que c'est pas le fait qu'il a reçu de l'aide, un petit coup de pouce par le gouvernement chinois? Et présentement, il y a aussi une élection municipale à la ville de Toronto et Olivia Chow qui est avancée dans les sondages. Même comme tous les candidats à l'élection, elle rencontre tout le monde, incluant des Chinois qui sont favorables à la Chine. Puis encore une fois, on a sali son nom en disant que bon, est-ce qu'elle va pas être achetée par le gouvernement chinois? Et ça, c'est vraiment raciste parce qu'on pose pas cette question de est-ce que quelqu'un est sous l'influence du gouvernement chinois ou est-ce que quelqu'un est acheté par le gouvernement chinois ou influencé par le gouvernement chinois. On ne pose pas cette question à aucune candidate autre que les candidates d'origine chinoise.
Et Olivia Chow, pour les gens donc, qui la remplaceraient pas, là, c'est la veuve de Jack Layton, bien sûr, mais c'est aussi une ancienne députée du NPD qui a longtemps été élue dans un comté de la région de Toronto qui correspond au Chinatown de Toronto. Mais donc, Olivia Cha, c'est une figure en politique canadienne depuis plusieurs années. Et puis là, parce qu'elle se présente à la mairie de Toronto, il y a effectivement eu des reportages, des questions qui se sont posées sur des liens avec la Chine. Je pense pas que ça avait déjà été posé comme ça dans sa carrière politique, à part depuis quelques mois, là.
This episode is brought to you by Douglas, a mattress trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. Trust is important. There are a lot of mattress lies out there, a lot of mattress liars. And I didn't intend the pun, but it occurred to me that there is one as I was saying those words. Listen, I am not lying to you. I have experienced the Douglas mattress. It is an exceptional mattress at a surprisingly affordable price point. It is a mattress that sleeps cool, doesn't have that weird thing in the summer where the mattress gets like an oven. It's a very good product. It's delivered to your house in a box. You don't have to go to a big mattress store. It is a medium firm mattress, which is what Canadians prefer. And it comes with a 365-night trial and a 20-year warranty. What more can I tell you? Douglas is giving our listeners a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca/CanadaLand to claim this offer. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. We hear a lot about the opioid crisis. We talk a lot about the mental health crisis. These are serious problems. These problems affect us all. They've affected my life and my community. They are not intractable problems. I don't know what's going to solve them on a policy level, but day to day, helping people, that's what CAMH does. They do it on the ground when people need help, and they do it through research. The team at CAMH gave our team a tour of their facilities, and we were really just blown away by the incredible, heroic work that they're doing every day. They treat everyone with dignity, and their research is seeking and finding real solutions for everyone around the world. Help change mental health care forever. Your support will help CAMH build a future where no one is left behind. Donate at CAMH.ca/CanadaLand to help CAMH treat addiction and build hope.
La diversité des points de vue dans la communauté chinoise. Écoute, bien sûr, je suis pas d'origine chinoise moi-même. J'observe ce qui se passe, je regarde. Et puis, effectivement, je trouve que les quelques personnes qui prennent la parole sur ces questions-là, encore une fois dans les médias, une grande majorité viennent originaires de Hong Kong, parce qu'il y a quand même une grosse différence dans la communauté entre les gens qui sont originaires du continent, de mainland China, puis les gens qui sont originaires de Hong Kong. C'est pas les mêmes réalités politiques. Souvent des familles, par exemple, je pense à Michael Chung ou à d'autres personnes comme ça. Michael Chung, un député conservateur, qui viennent de familles essentiellement de dissidents politiques, des personnes qui critiquent la place du gouvernement chinois à Hong Kong, qui était une colonie britannique jusqu'à la fin du 20e siècle. Et on entend beaucoup moins les gens qui viennent de la Chine continentale même. Est-ce que tu as dit tout à l'heure sur « oui, mais quand même, est-ce que le gouvernement chinois, dans son histoire, n'a pas amené des améliorations au niveau de la pauvreté en Chine? » Ce genre de, disons, de nuances-là, même si après, je veux dire, et personne n'est pour non plus, je veux dire, le génocide des Ouïghours et essentiellement plein d'autres atrocités là-bas aussi. Mais cette nuance-là, je l'entends pas. Ça veut pas dire qu'elle est pas là, mais ça veut dire que peut-être que les gens qui l'expriment ou qui la pensent se sentent pas à l'aise de la nommer. Est-ce que tu remarques comme moi, disons, une asymétrie entre la diversité politique et d'origine ethnique, de linguistique de la communauté chinoise canadienne de manière générale et les quelques personnes qui osent s'avancer sur ces questions-là dans les derniers mois?
Oui, tout à fait. En fait, les gens qui parlent, disons, des actions positives entreprises par le gouvernement chinois sont très, très marginalisés. Et en fait, souvent, ils écrivent dans les médias sociaux alternatifs. Alors, on n'a pas le même accès aux médias dominants. Les voix des résidents ou citoyens d'origine chinoise qui alimentent le hystérie, la peur de l'influence chinoise sont amplifiées dans les médias dominants, alors que les voix comme le nôtre, les voix qui appellent à la prudence, qui rappellent à le respect de notre droit et liberté fondamentaux, on est vraiment très, très marginalisés.
J'allais te poser une question, parce que moi, j'observe ça de l'extérieur, puis voici ce que je remarque. Je remarque que D'un côté, il y a de la peur, puis comme on le disait tout à l'heure, du trauma intergénérationnel pour, par exemple, les personnes qui ont subi la violence de l'État canadien dans le passé, et que ça inclut une bonne partie de la communauté chinoise au Canada. Et d'autre part, je remarque aussi beaucoup de peur et beaucoup de trauma pour les gens qui ont subi la violence politique de l'État chinois dans le passé. Ça inclut beaucoup de personnes qui sont originaires de Hong Kong et qui ont de la famille là-bas, qui sont inquiets pour l'impact de la prise de position politique ici sur leur famille là-bas. Et moi, j'ai l'impression que dans les deux cas, il y a beaucoup de peur, et parce que les informations ne sont pas claires, parce que beaucoup d'amalgames, et parce que le dialogue public est dirigé par des personnes qui ne comprennent rien à la Chine, essentiellement, la peur prend de plus en plus place, l'effet de paralysie que ça cause crée de plus en plus de place, l'effet de soupçon perpétuel que ça crée les uns vers les autres prend de plus en plus place, nécessairement, parce qu'on n'a pas des faits, mais on a notre expérience familiale qu'on a vécue, puis il semble que les gens sont en train essentiellement de se positionner ou d'essayer d'évaluer les menaces potentielles à partir de leur expérience, parce qu'ils n'ont rien d'autre que ça, parce qu'il n'y a pas de faits.
Oui, tout à fait. Emily, moi, je veux juste vous dire qu'au niveau de nous, comme les gens de la communauté chinoise qui sont marginalisés, mais qui essaient de défendre nos droits et libertés, nous appuyons tout geste pour protéger l'ensemble de la communauté chinoise. C'est pas acceptable que les gens soient menacés. C'est pas acceptable que les gens soient accusés et pénalisés quand ils sont juste en train d'exercer, par exemple, la liberté d'expression ou d'association. Alors, nous sommes tout à fait d'accord avec ça.
Tu parles des personnes, par exemple, les personnes qui manifestent contre certaines actions du gouvernement chinois à Washington. C'est de ça dont tu parles, c'est ça?
Oui, ce sont les libertés d'expression, de protestation qui définissent, entre guillemets, les valeurs canadiennes. Alors, ce que nous déplorons est que le gouvernement chinois est en train d'utiliser un marteau au nom de protéger les Chinois canadiens. En fait, nous sommes beaucoup plus blessés par les gestes du gouvernement canadien que le gouvernement chinois.
C'est là où, en fait, où ça dépend finalement de là où les gens, essentiellement de la diversité dans la communauté, à savoir de quel... on parlait tout à l'heure, tu parlais de Rock and a Hard Place ou d'Arbre ou d'Écosse, là. En fait, de qui les gens ont le plus peur, de quel gouvernement les gens ont le plus peur, ça dépend vraiment de là où ils se situent sur le spectre politique et là où ils se situent, disons, dans la diversité de la diaspora chinoise au Canada, essentiellement. Là.
Oui, et quand on parle de la diaspora, parce que nous sommes, aimés ou non, nous habitons dans un monde qui est mondialisé depuis quelques décennies. Alors, c'est impossible pour les Chinois qui habitent ici de couper tout lien avec leur pays d'origine. On a des amis, nous sommes membres peut-être des associations de culture, sportifs, loisirs, qui peut-être sont basés en Chine. Alors, de nous peinturer tous comme agents chinois parce qu'on a des liens avec la Chine. Puis l'autre chose, c'est qu'on s'entend aussi que beaucoup des organismes en Chine sont liés avec l'État. Mais c'est un peu comme ici, la vaste majorité, disons, des organismes communautaires, etc., loisirs, reçoit des subventions de soutien du gouvernement québécois ou canadien, mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui reçoit l'argent de nos gouvernements sont les agents de nos gouvernements. On a quand même certaines libertés. Je ne suis pas assez équipés pour parler des associations culturelles, sportives, théâtrales, chinoises. Mais c'est vraiment difficile de nous placer dans une position où il faut comme renoncer. Et ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver parce que pour beaucoup de Canadiennes chinoises, la définition d'une partie de notre identité, c'est lié avec la Chine continentale. On parle toujours de notre hometown. Quand les Chinois ici se rencontrent, on demande où est votre village natal, hein? Parce que ça crée aussi des liens. Puis on réfère à nos origines d'immigration en Chine, puis ça crée des liens de fraternité, de communauté entre deux citoyens chinois qui se rencontrent ici. C'est un peu comme les non-chinois aussi. On pose la même question quand on se rencontre. On cherche des occasions rassembleurs et de solidarité et d'affinité quand nous sommes dans un océan d'un pays qui est composé majoritairement des immigrants sur des territoires colonisés.
Mais en terminant, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu vois qui permettrait de peut-être rétablir un peu le calme et de qu'on puisse, je pense, aller au fond des choses? Parce que quand même, il faut le dire, on ne souhaite pas qu'il y ait d'interférences étrangères dans, par exemple, les processus électoraux canadiens. Il y a des choses qui ont été, des inquiétudes, je pense, qui sont légitimes sur cette question-là, d'une part. Mais d'autre part, le faire sans avoir toute une communauté essentiellement pris comme des boucs émissaires de ces questions-là. Comment est-ce qu'on fait pour avoir cette conversation-là, cette discussion-là, mais autrement et de manière à ne pas nuire à la paix sociale au Canada?
Mais je crois que d'abord, on attend une vraie leadership de nos élus, de ne pas jouer la partisanerie. Je suis étonnée que les partis de tous les spectres demandent une commission publique sur les agents d'influence, alors que le commissaire, M. Johnson, a trouvé qu'il n'avait pas assez de preuves pour lancer une commission publique qui va sûrement arriver une autre chasse aux sorcières, et aussi de consulter nous, la communauté. En fait, quand nous avons organisé une conférence de presse sur les lieux de service à la famille chinoise, le média, ça a beaucoup calmé le média. Hein? C'est la première fois que les médias dominants ont mis pied dans un centre communautaire. Ils pouvaient voir qu'est-ce qui se passait dans ces organismes communautaires. Ça pourrait aller très, très loin pour lutter contre la stigmatisation de ces organismes communautaires qui sont nos institutions. Hein? Il faut s'entendre que ce sont les institutions de la communauté chinoise au Québec. Arrêter de faire les amalgames, mais je veux revenir au leadership. En Angleterre, qui aussi, il avait une enquête sur les présumés postes de police chinois, ils ont trouvé aucune preuve. Aucune preuve. Et toute cette histoire des police, stations de police secrète venait de Safeguard Defender, une entité étrangère, donc, qui a fait en sorte de tout bouleverser les gouvernements, les polices, les citoyens d'origine chinoise dans tous les pays qui étaient nommés dans le rapport. On ne demande pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enquête sur eux. Où viennent leurs informations? Est-ce qu'eux, ils sont en train d'espionner sur les communautés chinoises ici? Alors, on demande aussi les autorités publiques de faire un travail professionnel, s'il vous plaît.
À chaque fois qu'on a un récit blanc ou noir de quoi que ce soit, c'est un piège. Normalement, là, il y a toujours plus de nuances que ça. Et quand, même si on n'est pas en guerre, on se comporte rhétoriquement, comme si on l'était, avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre, on perd toujours beaucoup de nuances. J'espère que la conversation qu'on vient d'avoir ne sera pas comprise comme une défense de quelque gouvernement que ce soit. C'est vraiment pas ça l'intention. Je pense que mon intention aujourd'hui, en parlant avec toi, mais c'était plutôt de montrer que entre la nuance des opinions et des réalités sur le terrain et le discours médiatique des derniers mois, il y a un écart monstre, et la plupart des gens sont tellement loin du terrain qu'ils réalisent même pas l'écart qui existe, les trous qui existent. Souvent, quand on comprend mal une situation, on a l'impression de la connaître bien. C'est seulement quand on commence à creuser sur un sujet qu'on réalise tout ce qu'on ne sait pas encore. Et je pense qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de la double ignorance, comme ça, dans le commentaire sur ce qui se passe autour du gouvernement de Beijing dans les derniers mois. Donc, s'il vous plaît, juste allez fouiller. Ça peut être déstabilisant de commencer à comprendre parce que ça remet en question certaines certitudes, puis ça donne le goût de creuser plus, puis de creuser plus. Mais franchement, si l'actualité va continuer à porter sur cette question-là dans les prochains mois, je pense que quand même, le devoir éthique minimum, c'est de continuer à fouiller, de continuer à entendre toute la diversité d'opinions qui existe dans la diaspora, la communauté chinoise au Canada, parce que ce sont en fait des communautés très plurielles, très complexes, et d'essayer de comprendre l'impact de nos mots sur le terrain, sur les gens, parce que ces gens-là sont des Canadiens. Et si on s'inquiète de la sécurité des Canadiens, mais ça devrait les inclure eux aussi.
Excellent. Merci beaucoup, Emily.
Alors, c'était tout pour Détour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, May.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Si les gens veulent en savoir plus sur ton travail, est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te trouver?
Regardez sur les médias sociaux. Nous avons un groupe Facebook pour les Chinois progressistes du Québec où on partage beaucoup des informations. Je suis aussi la coordinatrice de la table ronde du Quartier chinois et comme une plateforme qui réunit tous les composants du Quartier chinois à Montréal, on s'inquiète beaucoup du fait qu'on est en train de perdre une grande partie de nos services sociaux. Alors, on donne des nouvelles sur notre Facebook aussi.
Donc, le Facebook de l'Association des Chinois progressistes du Québec et de la table ronde du Quartier chinois de Montréal. Cet épisode est produit par Tristan Capacchione. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Et si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, faut toujours le redire, partagez-le, s'il vous plaît, sur vos réseaux et parlez-en à vos proches.
Hey, I need you to pay close attention to this message. It is not an ad. This is about Canada Land, and this is about you. You need to know that the news crisis is about to get a lot worse. You've heard about the layoffs. We're about to have news closures, and it's very likely that we're going to be seeing the defunding of the CBC. Where are you going to get your information from? What can you do about this? You can support Canada Land. We need you to. And so for this month and this month only, you can become a Canada Land supporter and get everything our supporters get for just $2 a month. That is an almost 80% discount. The clock is ticking on this. It disappears at the end of the month, and then we will not offer it. We need your support. We need to keep news coverage alive in Canada. Go right now to canadaland.com/join. And thank you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.